Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Et bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Divergence FM dans l'émission Nous n'avons qu'une terre. Et non, vous ne rêvez pas, Dominique Martin-Ferrari n'a pas mué. Elle est bien avec moi en studio.
Bonjour Bruno.
Et c'est elle qui va se coller aux réponses des questions que je vais lui poser. Car ce soir s'achèvera à Nice l'UNOC 3 du nom. Donc c'est la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. C'était organisé par la France et le Costa Rica. La dernière s'était tenue en 2022 à Lisbonne et la première était à New York. Donc une conférence sur plusieurs jours avec plusieurs priorités, notamment 3: œuvrer à l'aboutissement des processus multilatéraux liés à l'océan pour rehausser le niveau d'ambition pour la protection de l'océan. Ça, c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est mobiliser les financements et soutenir le développement d'une économie bleue et durable. Et la 3e priorité, renforcer et mieux diffuser les connaissances liées aux sciences à la mer pour une meilleure prise de décision politique. Et dans cette conférence, il y avait bien sûr beaucoup de politiques. On peut noter Emmanuel Macron, on peut noter Rodrigo Chavez Robles, dont on peut dire son propos, que notre engagement soit aussi vaste que l'océan qui nous nourrit. Et Emmanuel Macron, protéger l'océan, c'est protéger un gigantesque puits de carbone et de réserves inestimables de biodiversité. Alors, est-ce que cette conférence mondiale, parmi tant d'autres, va tenir ses promesses? Je vous propose, pour commencer cette émission, d'écouter Emmanuel Macron. C'était lors de la séance d'ouverture.
Mobiliser tous les acteurs locaux et de manière inédite, 300 élus, maires et gouverneurs des 5 continents ont créé, sous l'impulsion de Christian Estrosi, que je remercie, la première coalition des villes et régions pour lutter contre les effets du changement climatique et de l'élévation du niveau des mers. Cette coalition d'acteurs locaux, coprésidée avec la maire de la Nouvelle-Orléans, avec laquelle vous avez présenté vos travaux, c'est aussi la mobilisation de tous les acteurs locaux à travers le monde, de toutes celles et ceux qui sont touchés au premier plan par les effets déjà du changement, mais ceux aussi qui permettent de construire sur le terrain les solutions pour éviter, réduire, compenser, adapter sur le terrain les mauvais comportements, les émissions et permettre de répondre à nos défis.
Alors là, on sent Emmanuel Macron avec beaucoup de promesses, beaucoup d'envie. Dominique, alors est-ce que ces promesses resteront lettre morte ou pas ?
Alors d'abord, bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, ce qui s'est passé à Nice, alors c'était important parce que c'était à l'initiative de l'ONU.
Oui.
Donc quand c'est comme ça, c'est très intéressant parce que on a tous les pays du monde. Mmh. Et il est vrai qu'en matière d'environnement, malheureusement, il est très difficile de faire du local sans faire du global.
Oui.
Donc obligatoirement, le fait d'avoir tout le monde là, c'est très bien.
Il y avait même les Américains.
Et la Chine, voilà, exactement. Alors, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que l'océan, on s'en était pas occupé depuis longtemps.
On est en retard.
Ça fait effectivement une 50aine d'années qu'on n'en avait pas parlé. Et puis, ça faisait seulement 15 ans de négociations où on commençait à en discuter entre États à échelle du monde.
Ouais.
Mais il faut surtout dire que l'UNOC 3... n'était pas donc une réunion comme les COP climat ou comme la COP biodiversité. C'est-à-dire qu'on n'y prenait pas de mesures contraignantes.
Ouais.
C'était juste un appel parce que vous saviez qu'il y a eu 17 ODD, c'est-à-dire les objectifs du développement durable qui sont lancés par l'ONU, essaient de mettre la planète un peu en harmonie, disons, sur l'eau, sur la misère, sur les femmes, sur le rôle. Et l'océan, l'ODD 14, n'avait pas été pris en compte. Donc Nice était essentiellement lié à cette volonté, c'est-à-dire prendre en compte l'océan. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie... Enfin, d'abord, l'océan, c'est 65% quand même de la planète. Donc, c'est quand même énorme. Mmh. Et on a encore 50% qui sont non considérés et qui sont liés aux pirates, à tout, enfin, à une espèce de western, quoi.
Et c'est d'où peut-être ce retard en termes d'océan, c'est que c'est des eaux en fait qui n'appartiennent pour la plupart à personne. Et puis en fait, on connaît très peu les océans au final. On connaît presque mieux l'espace maintenant que les océans.
Absolument. Et c'est une des considérations qui étaient lancées. Mmh. Et Olivier Préaux-d'Arvor prend une très bonne, à mon avis, un beau modèle. Mmh. Il dit, vous êtes copropriétaire. Donc, vous avez les appartements. Oui. Et c'est finalement ce qu'on a appelé les ADE, c'est-à-dire ce que gèrent les États. Ouais. Alors, il y en a qui le gèrent bien, puis il y en a qui le gèrent mal. Ouais, ouais. Mais au milieu, il y a tout ce no man's land dont il faut aujourd'hui se préoccuper, parce que c'est là que se trouve la pêche illégale, c'est là qu'on risque d'exploiter des fonds marins. Enfin, c'est là qu'on va toucher au bien commun qu'est l'océan.
Et puis on peut rappeler que aussi ça ne passera que par les océans qu'on pourra rétablir le climat, puisque les océans sont les plus gros puits de carbone sur la planète. Et puis grâce à la photosynthèse, ça aspire encore plus tout ce carbone.
Et oui, et là on sait qu'il y a une très très grosse menace, parce que les océans sont d'abord ils sont notre gros producteur d'oxygène.
Oui.
Ils risquent de ne plus produire l'oxygène. Mmh. Ensuite, ils risquent de s'acidifier. Mmh. Et enfin, on est en train d'assister aujourd'hui à un changement des courants. Oui. Et ça, c'est très, très grave. Si jamais la MOC, par exemple, dont on parle, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle le Gulf Stream chez nous, se modifie, imaginez que, par exemple, Paris, Reims sont sur la latitude de New York. Ça veut dire que pendant l'hiver, on aurait des... Enfin, c'est fini de l'île de Bréa, c'est fini de toutes ces îles qui avaient un climat un peu tempéré. Quoi. Oui, on n'est plus en zone tempérée, on devient en zone... Alors, il y a le problème de ce renversement de la MOC, on le voit déjà avec toutes les sargasses qui ont quitté leur mer d'origine et qui sont maintenant aux Caraïbes, qu'envahissent les Caraïbes, parce qu'elles suivent un autre courant. Donc, c'est très difficile aussi parce qu'on ne sait pas ce que va devenir l'océan.
Oui. Alors, vous, Dominique, vous y étiez à cette conférence des Nations Unies sur les océans à Nice. Alors, comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance? J'imagine que ça devait être foisonnant. On en parlait un petit peu hors antenne. Beaucoup de bruit, beaucoup de sirènes, parce que beaucoup de délégations internationales. Quel est votre ressenti?
D'abord, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant. Et puis, il y a eu un vrai gros problème d'organisation. Alors là, moi, j'y étais pour 2 semaines parce qu'il y avait des gros événements avant que ne s'ouvre la conférence de l'UNOC même. Et donc, il y avait des espèces de rivalités entre la maire, l'Élysée, l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Environnement, enfin bref. Hein. Puis après, c'est redevenu sous la responsabilité de l'ONU. Bon, c'était un peu plus clair, mais Nice, c'est peut-être parce que 2 choses. Nice, c'est peut-être une trop petite ville par rapport à un événement de cette taille. Et donc, par exemple, des journalistes ont été expédiés d'une zone sur une autre et assez mécontents, notamment des journalistes internationaux. Donc, on risque de voir des articles, parce que l'organisation était un peu mauvaise, on risque d'avoir des articles très négatifs. Et puis, le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y avait un contre-ordre tous les ordres, et puis toutes les accréditations qu'on avait faites ne servaient à rien. Il fallait se réinscrire à tout.
Ouais, d'accord. Pourtant, Nice, quand même, est une ville qui est une des premières concernées de la montée des eaux. C'est pas anodin, quand même, de faire ça dans cette ville, même si c'est un peu à taille...
Alors, j'ai oublié la deuxième, mais c'est peut-être aussi parce que Nice avait eu un accident extrêmement important il y a 2 ans, puisqu'un camion avait foncé sur la foule, et qu'on a donc eu une sécurité renforcée. Il faut quand même rappeler qu'il y avait des grands chefs d'État qui étaient présents et qu'il fallait les protéger.
Surtout vu les temps qui courent.
Voilà.
Alors revenons du coup sur cette conférence des Nations Unies. Donc c'était beaucoup beaucoup de bazar, comme vous venez de dire. Vous, vous avez un peu pérégriné au travers de... Parce que j'imagine que ça devait se passer par plein de petits points, de conférences.
Exactement.
Voilà, expliquez-nous
alors,
comment ça se passe un peu.
Il y avait deux points principaux. Il y avait un point qu'on appelle la zone bleue, où il y avait tous les chefs d'État et toutes les délégations qui discutent et ça, politiquement.
C'est les VIP.
Parce que c'est ceux qui signent. Voilà, c'est ceux qui signent. Et dont on parlera tout à l'heure, parce que c'est quand même l'enjeu de la conférence. Mmh. Il y avait ensuite un autre lieu qui s'appelait la Baleine, qui était magnifique, ouais. Où tous les Niçois pouvaient accéder, les enfants, etc. Et où vraiment il y avait des jeux installés, des conférences, enfin, il y avait énormément de choses. Et là, moi, j'ai vu que la jeune génération, finalement, allait être vraiment bien sensibilisée à l'océan. C'est-à-dire, c'est des tout petits qui faisaient des dessins, qui jouaient sur les jeux qui avaient été mis en place, d'accord. Des fresques océans, etc. Et puis, il y avait après la grande conférence scientifique qui a eu lieu avant, la conférence des maires, la conférence sur la Méditerranée, dont on aura l'occasion d'égrener les enjeux et les conséquences dans l'émission « Nous n'avons qu'une terre », jusqu'aux vacances où on reviendra un peu sur tous ces sujets. Et les ONG, par contre... Moi, je les ai trouvées moins présentes que dans les années 70.
Et pourquoi ?
Mais alors, pourquoi ? Parce qu'à mon avis, on est à un moment de basculement. Ouais. C'est-à-dire qu'on est justement... C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'océan. C'est cette espèce d'incertitude dans laquelle on est. Et pour les ONG, c'est difficile de mettre en place des mots d'ordre pour demain. Ouais. Alors, on les a vus donc, au cours d'une grande... Il y a une grande journée de mobilisation, quand même, qui a eu lieu pendant, à la veille de la journée de la mer le 8 juin. Et donc, il y a eu un défilé avec plus de 1000 personnes.
Sur la promenade des Anglais.
Voilà, sur la promenade des Anglais. Et là, il y a eu réellement... c'était très festif. Il y avait des pas de danse, il y avait de la musique, etc. Mais il y avait aussi des appels extrêmement sérieux, dont une banderole qui avait été déroulée par Extinction Rebellion, qui faisait 150 mètres, c'est-à-dire la longueur d'un chalut industriel.
Ouais.
Incroyable, 150 mètres, alors que nos chaluts artisanaux font 12 mètres.
Oui.
Vous vous rendez compte un petit peu la différence. Hein. Donc voilà, il y avait ça. Puis après, il y a eu un grand bain qui a été organisé par Surf Rider. Maintenant, il y a eu aussi une réunion des ONG beaucoup plus sérieuse qui était où on est en train de... Et vous en entendrez parler sans doute dans l'avenir, la demande de la Constitution, comme l'avait fait en 72 la conférence de Stockholm, la constitution de nouveaux ministères, qui soient des ministères environnement-océan, partout dans le monde, et deuxièmement, réclame une protection globale de l'océan avec simplement des autorisations quand on a besoin d'exploiter, quand on a besoin de rechercher. Ce qui est quelque chose de très nouveau parce que, pour l'instant, on parle d'aires marines protégées, on parle donc...
Qui ne sont pas tant que ça, souvent.
On renverse complètement le problème.
On
protège tout l'océan et on demande des autorisations.
Et alors, justement, on parlait de la mobilisation de ces ONG. On peut parler aussi du financement de ces ONG. C'est peut-être pour ça que la mobilisation est peut-être un peu plus compliquée. Quand on voit ce que l'homme carotte, moi j'appelle l'homme carotte Donald Trump, retire tous les financements à beaucoup d'ONG, enfin à tout ce qui ne rapporte pas. Comment va se passer l'avenir ?
Alors, ça a été vraiment le compte-rendu. Enfin, la grande réunion sur la science qui a duré 3 jours.
Ouais.
Et qui rassemblait énormément de scientifiques venus du monde entier.
Oui.
Évidemment, les scientifiques américains enfin, il y a une scientifique américaine qui est intervenue de manière publique presque en larmes, en disant « Aidez-nous, on a besoin d'aide parce que, effectivement, Donald Trump supprime tout ce qui est non immédiatement rentable, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine des sciences humaines, du domaine des sciences sociales. Et par contre, maintenant aussi, il est en train de supprimer le côté ouvert de certaines universités.
Oui.
Ce à quoi, effectivement, Macron s'est opposé très fermement, mais bien d'autres chefs d'État également, au cours de la réunion, en disant « Nous avons besoin d'une science libre, ouverte.
Oui. »
Moi, ce que je crains, c'est que, effectivement, on sente de la part des pouvoirs... moins de confiance à l'égard des ONG, oui. C'est-à-dire ce que Greenpeace, ouais. WWF, etc., et plus de confiance au niveau de la science. Ouais. Sauf que la science, il y a deux aspects. Il y a effectivement la science qui gère les faits et l'écologie a besoin de cette science-là. Mmh. Et puis, il y a ensuite les ingénieurs, les technocrates, etc., qui fabriquent entre les deux, il y a le choix de progrès.
Oui,
et
oui.
Le choix de progrès, c'est quand même à nous que ça revient.
Et oui.
Et donc, c'est très joli d'asseoir toutes les décisions sur la science, à condition que on ait un compte-rendu réellement correct, une transparence. Mmh. Et puis alors, bien sûr, la science n'a obtenu que 2 milliards d'euros, oui. Alors qu'elle en demandait 14. Oui. Et ce qu'il va falloir suivre, c'est vraiment ce lien entre le satellite, mmh. Les données satellitaires, oui. Toutes les données numériques et l'océanographie. On a, grâce à cela, une immense surveillance. Mmh.
Mais parlons-en justement de la science, parce que la science, elle permet aussi de faire un état des lieux, de quantifier, notamment, on pourra donner quelques chiffres sur le plastique, la pêche illégale, le transport maritime. On se rend compte que maintenant, on construit des hôtels sur mer de plus en plus gros, que les bateaux pour la pêche sont de plus en plus gros. Alors peut-être qu'on adapte les filets pour laisser passer quelques poissons, mais forcément, il y a du
dégât. On parlera longuement de la pêche illégale dans une autre émission, ouais. Où on fera intervenir justement la Fondation de la mer, etc. Ouais. Parce que effectivement, il y a eu énormément de réunions sur la pêche illégale, mmh. Dans la mesure où derrière la pêche illégale, il y a aussi la mafia.
Eh oui.
C'est-à-dire il y a pas seulement un trafic de poissons, mmh. Il y a aussi un trafic d'êtres humains.
Oui.
Et donc c'est pour ça que ça mérite qu'on en parle longuement.
Oui. Alors la science, elle peut encore beaucoup malgré tout. Donc pour ça, il faut du budget. L'intelligence artificielle commence à rentrer un petit peu dans le jeu.
J'ai eu l'impression un petit peu que pour obtenir de l'argent, pour obtenir des finances sur un projet scientifique, les chercheurs mettaient de l'IA,
oui.
Parce qu'on sait que l'IA aujourd'hui, il y a une course internationale entre la Chine, les États-Unis et la France, et j'ai eu un peu l'impression qu'on ajoutait le petit volet IA. Enfin, mais ça, c'est très personnel, je ne suis pas sûre de moi.
Oui, voilà. C'est pour avoir.
Mais je l'ai vu partout, et j'ai un peu étonnamment.
Il faudrait peut-être aussi renforcer certains programmes, comme on le disait en début d'émission, ben, en fait, les océans, on les connaît pas si bien que ça. Il faudrait peut-être mieux cartographier les océans. En plus, avec ce qu'on entend maintenant, on sait que l'administration Trump veut aller exploiter les fonds marins, ce qui n'est pas bon du tout, visiblement. Voilà.
Alors, c'est pas bon parce que, d'une part, on ne sait pas exactement quel type de biodiversité on a au fond des océans. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout le fond des océans. Ce qu'on sait, par contre, aujourd'hui, mais ça, c'est très, très nouveau, on ne le savait pas il y a 3 ans, c'est qu'au fond des océans, il y a de la captation de carbone.
Et oui.
Et qu'on risque, en exploitant, de libérer du carbone ou du méthane.
Oui.
Et ça, donc, c'est très grave. Et effectivement, c'est un apprenti sorcier, le père Trump.
Oui.
Enfin, pardon. Mais il fonce sur l'exploitation. Et Macron a quand même lancé, bon, ça, on sera reconnaissant quand même, il a lancé le moratoire. Et donc, on essayait Nice a tenté de rassembler de plus en plus de gens autour de ce moratoire,
oui.
À rassembler 35 pays. Bon, c'est encore peu, mais
oui.
C'est quand même fondamental parce que ça demande beaucoup de moyens et tous les pays ne se lanceront pas,
oui.
Dans l'exploitation. Alors, il faudra suivre ça, cette proposition, parce que c'est cet été qu'il va y avoir la négociation internationale.
Oui, oui.
Voilà.
Et puis ce moratoire, outre la captation ou la libération du CO2, il est très important parce qu'en fait, il y a toute une biodiversité dans les fonds marins que l'on connaît très peu aussi. Et forcément, cette biodiversité a un impact aussi sur la biodiversité qui est un peu plus en surface.
Oui, alors ça, c'est quelque chose, effectivement, qui risque de... On ne sait pas, quoi. Ce sont des poissons... par exemple, on a épuisé un poisson des fonds marins en l'espace de 10 ans. Oui. Or, il lui faut plus de 50 ans pour se reproduire. Oui. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et il y a besoin de le savoir. Alors, la cartographie des fonds marins, par contre, ça a beaucoup avancé. Oui. Et elle est sous l'égide de l'UNESCO. Oui. Et de nombreux laboratoires vont travailler à cette cartographie. Mmh. Donc déjà, avoir une carte du fond de l'océan, c'est vraiment le minimum avant de commencer à l'exploiter.
Et puis de quantifier aussi cette biodiversité. On revient à proprement parler sur les solutions. Donc on a parlé de la science. Et puis il y a aussi en fait des gens qui se mobilisent, comme les maires qui étaient présents, notamment avec ce qu'on appelle l'Ocean Rise, une coalition qui réunit des villes et régions côtières confrontées à l'élévation du niveau de la mer, parce qu'on le sait, l'élévation du niveau de la mer est une conséquence directe du changement climatique. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron à propos de ce sujet.
Nous sommes 33 États à avoir créé une coalition pour promouvoir un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins. Et je le dis ici à tous, c'est une nécessité. Et pourquoi ? Je ne suis pas du tout contre l'activité économique, bien au contraire. Mais je pense que c'est une folie de lancer de l'action économique prédatrice qui va bousculer des grands fonds marins, qui bouscule la biodiversité, qui la détruit, qui libère des puits de carbone irrécupérables, quand nous n'y connaissons rien. C'est de l'obscurantisme que de faire de l'exploitation avant d'avoir commencé l'exploration. Et donc le moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins est une nécessité internationale. Lançons des grandes missions d'exploration, connaissons, mettons la science en avant, mais n'exploitons pas ces grands fonds marins, protégeons nos écosystèmes, parce que nous ne savons pas ce qui peut s'en suivre, parce que vous avez là des réserves de carbone essentielles, parce que vous avez là des espèces que personne ne connaît encore. Ce combat est vital pour nous tous, et je le dis ici avec force. Les abysses ne sont pas à vendre, et pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre, pas plus que les licences de pêche des pays en développement ne sont à donner, pas plus que les données scientifiques ou la sécurité des populations littorales ne sont à sacrifier. Nous parlons d'un bien commun.
On peut dire qu'il était en forme aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il a eu une drôle de voix parce qu'il est en train de parler dans la séance d'ouverture. Donc d'abord, c'est une immense salle. Et puis en plus, en face de lui, il y a plus de 1000 personnes. Ouais. Donc il est obligé de crier. Et ça lui donne un ton un peu, je pars en guerre. Quoi.
Alors Dominique, si vous voyez bien, avant de parler des conclusions de cette troisième conférence des Nations Unies sur les océans, qui, je le rappelle, se terminera ce soir à Nice, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette Ocean Rise, cette coalition qui réunit des villes et des régions. Par exemple, moi j'entendais chez nos confrères de France Info il y a quelques jours, une ville comme Lacanau n'a pas attendu cette conférence pour mettre des choses en place.
Mais
pour
nous,
nous
n'avons pas attendu sur le golfe du Lion, puisque aujourd'hui, beaucoup de choses effectivement se mettent en place, que ce soit à Sète, que ce soit Banyuls, que ce soit... Bon, enfin, on a vraiment une montée des eaux, ou en Camargue. Enfin, la Tour du Valat fait un gros travail, donc on en a déjà beaucoup d'ailleurs parlé à l'antenne de Radio Divergence. Mais moi, c'est une des réunions qui m'a le plus intéressée. Alors pourquoi ? Peut-être parce que, effectivement, je suis concernée à Montpellier par cette montée des eaux, mais aussi parce qu'on sent que les maires ont besoin d'échanger leurs bonnes pratiques. Et c'est quelque chose qui réellement se passe. Alors, la prochaine réunion aura lieu au Maroc. Là, ils étaient quand même nombreux. Ce qui était très, très intéressant, c'est que, bien sûr, il y avait Estrosi, puisque c'était organisé par Nice, cette journée. Mais il y avait aussi la maire la Nouvelle-Orléans, la Toya Cantrell, qui était présente et qui donnait, par exemple, je vais vous donner un exemple de bonne solution. Quand il y a eu la panne d'électricité sur la Nouvelle-Orléans au moment des cyclones, tous les congélateurs, forcément toute la bouffe qui était dans les congélateurs a été, n'était plus valable. Donc ils ont organisé des grandes cuisines collective, ils ont fait des repas qu'ils ont ensuite distribués à tout le monde. Donc c'était quand même assez génial, quoi. Voilà.
Oui, et puis ça montre qu'on arrive à se mobiliser ensemble pour pallier à ce genre de problème.
Il y aura une mutualisation des données spatiales pour la surveillance du trait de côte. Il y aura la création d'une université de la mer qui proposera des formations aux administrations locales, parce que là on redescend au niveau local. Il faut renforcer les aires marines. On aura l'occasion d'en reparler. Conserver les espèces, bien sûr, et puis mettre en place le fameux RCE, c'est-à-dire, non, ERC, éviter, reconstruire compenser. Et ça, Sylvien Pioche va venir nous en reparler à cette antenne.
Et ça, je termine très vite sur les maires. Eux, ils sont dans le réel, notamment, il y a beaucoup de communes qui sont en train de racheter du foncier parce qu'ils sont obligés de détruire les maisons qui vont être noyées dans les eaux. Allez, cette conférence des Nations Unies sur les océans qui se tenait à Nice se termine ce soir. Elle était organisée par la France et le Costa Rica.
Juste un petit mot pour BBNJ, parce que c'était quand même l'enjeu national, l'enjeu de Macron.
Alors, BBNJ, ça veut dire Marine Biodiversity of Area Beyond National Jurisdiction.
Merci Bruno, parce que mon accent ne le mérite pas. Et donc, lui disait, on va gagner. Pour gagner, ça veut dire qu'on va finalement entrer dans une convention sur la haute mer, comme on est entré sur une convention climat-biodiversité. Oui. Et c'est très, très important, parce que là, on sera dans de la production de droit, donc dans du contraignant, et non plus dans simplement de l'appel à la bonne volonté. Et il disait, pour pouvoir, c'est l'équivalent du protocole de Kyoto, il faut avoir 60 signatures, pour qu'on puisse commencer à discuter. Et donc la France avait mis cette barre. On ne l'a pas tout à fait, mais on est parti de 21.
Oui.
Et on arrive à 55.
Oui.
Donc c'est quand même quelque chose... La diplomatie française a fait un travail extraordinaire. Ouais. Et on pense qu'on signera BBNJ à la fin de l'année.
D'accord. Ben, vous me tendez la perche, Dominique. Quelles sont les avancées de cette troisième conférence des Nations Unies ?
Voilà, forcément, on attend ça. La deuxième avancée, c'est qu'il y a eu beaucoup de signatures, beaucoup de pays s'engagent davantage dans la lutte contre le plastique.
Oui.
Et on sent aussi que des entreprises s'y mettent.
Oui.
Et puisque je vais vite, le changement principal, c'est qu'on ne va plus laisser le plastique arriver à la mer. On va essayer de mettre en place des boudins pour le retenir au niveau des sources même, sur tout le long du fleuve.
Le mieux étant quand même de moins consommer de plastique.
Ah bah évidemment, et de revenir... Alors il y a eu tout un gros travail d'ailleurs sur la suppression du plastique unique. Il y a des pays qui l'ont interdit déjà dans certains supermarchés. Donc on est très très en retard. La France était très en retard sur les problèmes de l'océan. Alors, en ce qui concerne aussi ce qui avance, on a dit BBNJ, on a dit le plastique, donc la coalition des maires va poursuivre son travail et échanger. Alors là, il faut parler de Rougerie, parce que Rougerie imagine... c'était une très belle exposition d'ailleurs. Il a toute une fondation maintenant où il imagine des villes sur la mer, mais... Il ne faut pas avoir l'ancienne image des villes sur la mer. C'est des villes sur la mer qui sont reconstruites vraiment en culture, selon les cultures locales.
Ouais.
Et c'est très, très beau. Enfin, il faudrait qu'on puisse montrer des images.
Après ça, moi, j'avoue que ça me fait un peu penser, par exemple, à Elon Musk qui dit « autant quitter la Terre et partir sur Mars ». Moi, je pense que c'est bien de construire sur la mer, mais il faut régler le problème de la montée des eaux et
C'est en même temps parce que, comme vous disiez tout à l'heure, si on est dans notre région, alors c'est encore plus vrai sur Nice, par exemple, vous ne pouvez pas reculer. Il y a le foncier, vous n'avez pas de foncier. Donc, comment vous faites? Forcément, vous construisez sur la mer. Et construire sur la mer, il faut le faire bien. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire comme Dubaï a fait,
par exemple. Ou comme les Pays-Bas, qui sont un peu sous le nœud.
Aujourd'hui, ils sont obligés de revenir. Oui. Non, mais ils mettent en place des bateaux flottants. Ils ont de l'avance sur nous. Mais la Grande Motte, par exemple, n'est pas forcément un exemple à suivre. Il va y avoir... Et c'était intéressant de voir que C'était pas forcément du béton coulé et de l'immeuble fait comme ça. J'ai vu, par exemple, des villes de roseaux complètement s'élever. Alors, on garde le principe d'une ville, c'est-à-dire avec un cœur et puis des habitations autour, mais en tentant de garder finalement ce qui est culturel. Voilà.
Alors là, on vient de parler des avancées et très vite, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Dominique, il y a des points.
C'est vrai,
il y a
c'est
des points où ça bloque.
De travail en 26 minutes, c'est un peu dur.
Mais on en reparlera sur l'antenne de Divergence, évidemment. Donc, il y a des points où ça bloque, donc les signatures du BBNJ, mais vous me disiez qu'on devrait y arriver. Le plastique plan européen, alors qu'est-ce que c'est ça, très rapidement?
Ben, le gros problème, c'est qu'effectivement, on a quand même trois pays producteurs qui refusent de signer. C'est-à-dire qu'on a l'Arabie, la Russie, enfin on a des gros pays qui refusent de la signer et qui sont les producteurs de plastique.
Et avec ça, les aires marines protégées ou les pêcheurs passent.
Alors les aires marines protégées, on en parlera longuement parce qu'il va y avoir une nouvelle définition de l'aire marine. Et effectivement, il y a eu un débat en France, que vous allez retrouver dans les médias qui n'ont pas approfondi le sujet. Il y en a, par exemple, j'ai vu un reportage dans La Croix qui est extrêmement développé. Mais donc, on aura un invité la semaine prochaine qui sera Gilbert David, qui est à l'IRD, qui a mis en place les aires marines protégées sur la Polynésie et qu'a tenté sur Haïti et qui viendra nous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème de vocabulaire. Il y a des aires marines protégées, puis il y a des aires marines extrêmement protégées. Et c'est effectivement là qu'il faut interdire le chalutage. Mais c'est différent. Il y a d'une part la biodiversité, il y a le poisson. Donc il faudrait attendre un petit peu les définitions qui vont être données par l'UICN et puis par la suite.
Et on en reparlera évidemment sur l'antenne de Divergence. Je vous renvoie aussi, chers auditeurs, au podcast de la semaine dernière sur le www.divergence-fm.org. Et puis je vous promets, la semaine prochaine, c'est bien Dominique Martin-Ferrari qui reprendra le micro d'animatrice pour finir cette saison 2024-2025. Merci beaucoup, Dominique.
Merci, Bruno.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.